150 ans après, feuilleton sonore sur les traces d'Alexandre Dumas. Chapitre 1, combattre pour une noble cause.
Je vous invite à passer quelques moments en bonne compagnie. Le héros de notre série littéraire sera Alexandre Dumas, mort il y a tout juste 150 ans, mais encore si vivant dans notre imaginaire. Nous allons lui emprunter le genre du feuilleton pour suivre sa destinée posthume. Chaque jour, je vous proposerai d'écouter un nouvel épisode avec un invité surprise, une personnalité d'aujourd'hui qui entretient un lien intime avec l'écrivain. Nous commençons par Claude Schoppe, le biographe d'Alexandre Dumas, qui lui a consacré plus d'une quinzaine de livres. C'est l'un des meilleurs spécialistes du sujet après 50 ans de vie commune. La liaison s'est faite par téléphone en raison des contraintes actuelles. Nous partons donc en Normandie. Claude Schoppe, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, Alexandre Dumas semble immortel et pourtant il n'a jamais été admis à l'Académie française.
Hélas, il a tenté deux ou trois fois, il a demandé à Victor Hugo, croyez-vous que c'est le moment? Il a demandé à d'autres aussi, moins illustres, de le soutenir, mais sa candidature n'est jamais venue jusqu'à la fin, c'est-à-dire le vote des immortels qui sont morts bien avant lui, heureusement.
Et est-ce qu'on connaît les raisons de ce refus?
Oui, c'est un peu évident, disons que c'est en quelque sorte l'impureté de Dumas qui, alors à la fois littéraire et peut-être aussi dans sa vie personnelle, il y avait un rejet. Et par ailleurs, ça peut être aussi une raison politique, dans la mesure où Dumas se disait, avec plus ou moins de force, mais il se disait républicain, et nous étions surtout sous Louis-Philippe. Donc, c'était assez difficile d'introduire dans la bergerie un loup comme Dumas.
Alors, s'il n'a pas remporté la faveur des immortels, il a celle du public. C'est vraiment un phénomène d'édition, Alexandre Dumas. Il est également largement traduit et connu à l'international. Pourtant, ces histoires ont pour cadre l'histoire de France. Comment les lecteurs étrangers l'apprécient-ils, à votre avis ?
Là, vous me posez une question que je me pose moi-même. J'ai été souvent, bien sûr, à l'étranger. J'ai rencontré des fous de Dumas, ceux que j'appelle les fous de Dumas, qui sont prêts à faire des kilomètres, à passer des nuits, etc., en lisant Dumas. Et effectivement, vous avez raison, ces fous de Dumas sont universels. Et je me disais, je pensais, par exemple, en Russie ou en Géorgie, où je suis allé plusieurs fois, et où on me parlait de je me souviens d'une vieille dame qui me disait que moi, quand j'étais enfant, j'étais d'Artagnan, ce qui me paraissait totalement improbable. Et donc, je crois que je me posais cette question, qu'est-ce qu'un Géorgien de ces années, de ce siècle, peuvent saisir de Dumas, et bon, c'était quelque chose. Mais je crois que, justement, ce qui est intéressant, c'est que Dumas est beaucoup plus qu'un écrivain, en quelque sorte. C'est un créateur de mythes. Et le mythe des mousquetaires, le mythe Monte-Cristo, font qu'il résiste à l'usure du temps.
Et vous êtes un fou de Dumas aussi ?
Je le suis devenu.
Comment ?
Au début, j'étais à un dumasien raisonnable, quelqu'un qui, à l'université, devait choisir un sujet de mémoire et qui, trouvant que Hugo, Musset et les autres étaient quand même un peu trop glosés, qu'il m'aurait fallu traverser des étendues de glose, j'ai décidé de choisir quelqu'un qui avait été abandonné par l'université. Et donc, l'abandon de l'université faisait qu'il y avait très peu de travaux sur lui. Les choses ont bien changé depuis.
Du coup, vous dites qu'il avait besoin, d'une certaine façon, d'une réhabilitation.
Ah, il avait besoin, oui, d'une... À vrai dire, il a survécu pendant un temps, non pas par le livre, mais par les adaptations cinématographiques de ses œuvres. Entre les deux guerres, par exemple, on n'éditait plus beaucoup Dumas. On met comme il était adapté, ces héros étaient populaires. Et aujourd'hui encore, regardez, si vous dites les mousquetaires, aussitôt les gens qui n'ont pas lu les mousquetaires savent de quoi il s'agit. Ne serait-ce que par les grandes surfaces ou, je ne sais pas, les champions de tennis qui sont aussi les mousquetaires. Il y a une espèce de, oui, un mythe mousquetaire qui correspond à le mythe de l'amitié virile, en quelque sorte, de la réunion de le tous pour un, pour tous. Et ça crée un mythe très fort et qui traverse le temps.
Maintenant, il se trouve au Panthéon. Est-ce que l'affaire est entendue? Est-ce qu'il est devenu de façon reconnue, officielle, un écrivain national?
Ah oui, non, ne serait-ce que justement le nombre de travaux actuellement, et puis la vision de la littérature a changé. Dumas était le contraire d'un rhétoricien. C'était quelqu'un qui écrivait naturellement, si j'ose dire. Et donc ce naturel n'a pas vieilli, alors que la rhétorique de la plupart des autres écrivains, cette rhétorique-là a vieilli. Dumas n'a pas vieilli. Il a pris quelques rides, bien sûr, mais très très peu.
Alors lui-même a construit son image d'une certaine façon en écrivant des mémoires. C'est un genre qu'il semble affectionner d'une façon toute particulière.
Il a voulu écrire les mémoires de son siècle, disait-il. C'est-à-dire, dans ses mémoires, il n'est rien lui-même, mais il est tout parce que quand il s'allie à tous les gens qu'il a connus, à tous les gens qu'il a aimés. Et ça a été avant tout, comme on disait pour Nodier, un aimeur, quelqu'un qui aimait. Et en fait, je crois que sa vie est extrêmement intéressante à ce point de vue, et sa littérature aussi, parce que sa littérature, c'est avant tout une littérature du temps. Une sorte de méditation sur le temps. Quand vous regardez par exemple les mousquetaires, la trilogie des mousquetaires, c'est-à-dire les trois mousquetaires, 20 ans après le vicomte de Bragelonne, vous voyez que ces trois volets correspondent véritablement à l'avancement de la vie humaine, c'est-à-dire les mousquetaires, c'est j'étais. Nous sommes dans le présent avec 20 ans après, et nous sommes dans l'après, si j'ose dire, avec le vicomte de Bragelonne. Il y a la jeunesse, les trois mousquetaires. Il y a ensuite, bien sûr, l'âge adulte, la mélancolie de l'âge mûr avec 20 ans après, et il y a la fin de la vie avec le vicomte de Bragelonne, où la plupart des héros meurent, sauf Aramis, qui résiste à la mort, si j'ose dire. Donc c'est véritablement quelque chose de très fort, fortement marqué, cette inscription dans le temps de la vie humaine.
Et justement, est-ce qu'il pensait au futur, au temps qui suivrait sa disparition? Est-ce qu'il était préoccupé par sa postérité?
Oui, d'après des anecdotes, d'après ce que raconte son fils, effectivement, il demande à son fils, là, appui, où il s'est réfugié en quelque sorte près d'Alexandre Dumas fils, il lui demande, crois-tu que mon œuvre survivra? Et son fils le rassure, car il est persuadé, il a raison, qu'il a créé des œuvres assez fortes pour enfoncer, comme dit Dumas fils, enfoncer tous les autres écrivains.
Alors vous avez consacré une biographie à ce fils qui était écrivain lui aussi. Quel lien existait entre ces deux hommes?
Un lien très fort, un lien fusionnel. Enfin, il faut dire que Dumas avait tendance à faire des enfants et à éliminer les mères pour garder ses enfants pour lui tout seul. Donc il y a un rapport extrêmement fusionnel, passionnel même, entre le père et le fils, avec dans l'adolescence, des crises, dans la mesure où la vie aventureuse de Dumas père, entre autres points de vue amoureux, ne plaisait pas du tout au fils, qui voyait toutes les femmes qui défilaient chez son père comme des voleuses d'amour. Et donc, ça a été une relation très forte. Il faut savoir que le fils est né lorsque le père était encore très jeune, puisqu'il est né en 24, Dumas est né en 1802, donc il avait 22 ans. Donc c'est un jeune père, et donc il y avait une différence pas très importante entre le père et le fils, et ils ont vécu très souvent dans une folie commune.
Et votre dernier ouvrage parle de Dumas amoureux. Quelle place ont eu les femmes, vous l'avez un peu évoqué, hein, mais dans sa vie ?
À la fois une place énorme. Dumas est toujours un homme à la poursuite. C'est pour lui les 1003 de Don Juan. C'est aussi son, comment dirais-je, sa façon d'être. Enfin, il a surtout, bien sûr, aimé des femmes de théâtre, des femmes de scène. Certaines comme Caroline Unger, la grande cantatrice, une femme admirable. Après, évidemment, comme un certain nombre d'hommes, il a eu tendance à aimer des femmes de plus en plus jeunes, à la limite quelquefois de la pédophilie, si j'ose dire. Non, il a véritablement... Il fut un temps où, j'ai commis un quid Dumas et j'avais essayé de relever le nom de toutes ces femmes qu'il avait connues au sens biblique du terme, et je me suis découragé parce que j'étais arrivé à une...
Devant le nombre.
Oui, c'était trop, quoi. C'était trop, ouais. Il y avait une espèce de boulimie amoureuse qui... Mais ça fait partie de sa façon d'être, c'est-à-dire c'est un homme qui dépense. Donc, il dépensait, entre autres, toutes ses ardeurs amoureuses, comme il dépensait son goût du luxe, son goût de l'amitié aussi. Non, je crois qu'il avait ce goût de la dépense. Il était le contraire un peu de Victor Hugo, qui thésaurisait, Dumas dépensait.
Et dans ces livres, quelles sont les figures d'héroïnes ? Ce sont souvent quand même de fortes femmes.
Non, les femmes sont assez peu traitées chez Dumas. Il y a un côté, c'est le côté le plus artificiel, en fait. Hein. Entre autres, la jeune fille est vraiment un peu très, correspond à des types romantiques habituels, quoi. Il y a peu de nouveautés, bien sûr. On pense aussi à Milady. La terrible Milady qui, là, est une femme forte, une femme qui est maltraitée par les hommes, au fond, hein, et qui se prend sa revanche. Donc, il y a un côté féministe dans Milady. Et pour les autres, il y a une seule femme qui me paraît... Bon, il y a la reine Margot qui est extrêmement intéressante, bien traitée dans ses désirs, dans sa liberté d'être. Et il y a aussi une autre femme extrêmement intéressante qui est Olympe de Clèves, une actrice du 18e. Et là, c'est un très très beau roman que j'ai eu le plaisir de rééditer aux éditions Quarto chez Gallimard, et c'est vraiment un roman que j'admire parce que c'est très beau et le personnage de la femme y est remarquable pour une fois.
Alors vous parliez de Milady, et dans ce personnage, d'une certaine façon, l'amour et la violence sont mêlés, et Dumas semble parfois prendre un certain plaisir aux scènes d'exécution qui sont nombreuses dans ses œuvres. Je pense à la décapitation de Milady. Est-ce qu'il y a une certaine complaisance par rapport à ce genre de scène ?
Alors là, moi, je vais vous poser une question, en fait. Si vous aviez vécu, 50 ans, 40 ans après une révolution qui avait coupé un certain nombre de têtes, un grand nombre de têtes, quelle serait votre réaction ? Je pense qu'il y a là un point qui nous est bien sûr inconnu maintenant, c'est comment aurait-on réagi après avoir subi cette grande période révolutionnaire. Donc je crois qu'il est presque normal, ce serait anormal qu'on ne parle pas de la tête coupée après la révolution. Parce que c'est encore très proche.
Et...
Le père de Dumas était un révolutionnaire, en quelque sorte. Donc, quelqu'un qui était dans la République. Donc, on peut comprendre que, bon, c'est un thème. Et c'est un thème, en plus, qui est un thème extrêmement fréquent à son époque. Donc, je ne crois pas que ce soit très particulier à Dumas.
Et lui
C'est un problème de génération, en fait.
Et lui qui considère l'ensemble de l'histoire de France, quelle place donne-t-il à la Révolution, justement, dans son grand drame de la France ?
Voilà, la Révolution, ce n'est pas encore l'aboutissement, parce que ça a été justement quelque chose de violent, mais c'est une étape absolument nécessaire. Pour lui, c'est très clair, à la fois Richelieu et, je dirais... Napoléon, sont des gens nécessaires à l'histoire de France, qui font l'histoire, mais qui vont vers un but. Le but étant un but de liberté, la devise de la République, égalité, liberté, voilà. Et donc, il voit toute l'histoire comme un cheminement vers ce moment où il y aura une république, et il faut lire chacun de ses romans comme une étape vers l'étape suprême, c'est-à-dire il croit au progrès.
Et lui-même aurait aimé être un acteur de cette histoire, et on sent chez lui un goût pour l'engagement politique qui, quelque part, n'a pas pu aller aussi loin peut-être qu'il aurait voulu.
C'est-à-dire son bonheur, en quelque sorte, c'est qu'il a pu rencontrer l'histoire. Lui qui avait raconté l'histoire, il n'avait jusqu'en 1860, il n'avait pas réussi à faire l'histoire. Il n'était pas dans l'histoire. Et grâce à Garibaldi, en 1860, il est entré dans l'histoire. Il a fait l'histoire, mais parce qu'il a participé à l'épopée des Mille. Et ce qui était très, très étrange, en fait, c'est qu'il a fait l'histoire, mais dans un pays qui n'était pas la France.
Et c'est intéressant. Et vous, aujourd'hui, qui avez étudié longuement Dumas, que vous reste-t-il à découvrir ?
Qu'est-ce qu'il me reste à découvrir ? Ce à quoi je travaille encore aujourd'hui, c'est-à-dire à la correspondance générale de Dumas, j'en suis au sixième tome, et voilà, et plus bien sûr, cette correspondance à la fois d'affaires mais aussi intime, ça permet de mieux saisir la personne, en fait. Et bon, traquer, bien entendu, tout ce qui peut être arrangement, petit mensonge, cette espèce de suivre Dumas dans son espèce de grande folie et de séduction, parce que c'est un personnage extrêmement séduisant et tellement différent. Alors, est-ce qu'il faut rattacher sa différence à sa naissance, c'est-à-dire au fait d'être le petit-fils, le petit-fils d'une esclave et d'un aristocrate, ce qui est quand même un départ dans la vie étonnant, quoi. Et donc je pense qu'il y a, c'est un personnage différent, et la correspondance, ses lettres nous permettront de mieux saisir cet étrange personnage, en fait. Tellement autre et tellement proche de nous par ailleurs.
Et imaginons que vous le rencontriez, quelles questions aimeriez-vous lui poser ?
À vrai dire, ce serait, si je le rencontrais, ce serait une chose un peu intime, parce qu'il y a quand même 50 ans que je vis avec lui.
De vie commune.
Donc est-ce qu'on pose des questions, on se comprend, quoi. Et ouais, il y a ce moment-là étonnant où on se dit j'ai vécu en travaillant sur Dumas, c'est un rapport étrange entre biographe et biographié. Mais un rapport très agréable et je dirais que c'est devenu le plus intime de mes amis, ou presque.
Et peut-être que pour s'intéresser à sa postérité, il faudrait aussi s'intéresser à ses lecteurs. Est-ce que vous avez certains lecteurs contemporains en tête qu'il pourrait être intéressant de rencontrer?
Oui, enfin, il y a certains, et ils ont droit à mon estime immédiatement, bien entendu. Je crois que un prix Goncourt assez récent, Pierre Lemaître est quelqu'un qui voit en Dumas son inspiration première. Je crois aussi qu'un premier ministre récent relisait le vicomte de Bragelonne tous les 10 ans, et quand on connaît le vicomte de Bragelonne, qui est quand même un très très long roman, on a l'impression qu'il a vécu aussi très près de Dumas, souvent.
Eh bien, merci Claude Chop pour vos conseils. Nous allons tâcher de trouver ce Premier ministre et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.